Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Ce dimanche, nous aimerions vous faire rencontrer un homme qui a vécu plusieurs vies. Né en Algérie près d'Oran, il a passé une partie de sa jeunesse en France avant de s'installer à Jérusalem. André Chouraki a été résistant, militant à l'Alliance israélite universelle, conseiller de David Ben-Gourion et vice-maire de Jérusalem. Mais il est surtout connu pour son œuvre écrite protéiforme, histoire du judaïsme et de la présence juive en Afrique du Nord, poésie, essais et surtout traduction, puisqu'André Chouraki est devenu célèbre grâce à ses traductions de la Bible, de l'Évangile et du Coran. Il a également toujours mis à profit ses héritages multiples, son origine maghrébine et française, sa culture familiale hébraïque, son éducation religieuse juive, son enfance chez les sœurs, son adolescence laïque, pour faire se rejoindre toutes les confessions. Pour nous présenter cet homme multiple, nous recevons Emmanuel Chouraki, son fils, qui vient de lui consacrer un documentaire, et Francine Kaufmann, co-auteur du documentaire, professeur au département de traduction de l'Université Bar-Ilan, et qui intervient dans le film. Alors pour commencer, avant de parler de l'œuvre d'André Chouraki, je voudrais aborder un peu sa vie, puisque le film, à l'aide de nombreuses images d'archives, raconte l'enfance et la jeunesse de votre père, Emmanuel Chouraki. Il est donc né près d'Oran en 1917, dans une famille qui descendait d'anciennes familles juives espagnoles, où l'on trouvait des théologiens, des rabbins, des poètes, et qui œuvraient pour le développement du judaïsme d'Afrique du Nord. Il grandit dans une famille religieuse, et là j'aimerais que vous nous parliez de l'éducation qu'il a reçue. C'est une éducation très ouverte, très mélangée, j'ai l'impression.
Je crois qu'au début, il était comme tous les enfants juifs avec son père à la synagogue. Il allait prier et écouter tous les commentaires de cette prière. Je crois qu'il adorait ça. Ça l'a imprégné la loi mosaïque, Moïse, les 10 commandements. Et je crois qu'à l'âge de 7 ans, il a eu une polio qu'il a clouée à la maison. Et je crois qu'il a compensé en lisant. Il lisait énormément et les sources juives. Après cette période, il a quitté la maison à Intemouchent. Il est allé au lycée d'Oran. Et là-bas, on lui a coupé ses racines juives pour lui inculquer les valeurs françaises républicaines. Et c'était la première fois où il apprend tout ce qui est France, christianisme. Et ça l'a coupé de ses racines juives, d'une certaine manière. Tu veux ajouter quelque chose, Francine ?
Avec plaisir, parce qu'en fait, moi, André Chouraki, je m'y suis intéressée à... Deux titres. Le premier, bien sûr, je travaille sur la traduction et je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la traduction de la Bible. Je ne pouvais pas passer sous silence André Chouraki. Mais ce qui m'a beaucoup plus frappée, c'est justement le tournant de la Shoah, puisque je travaille sur la littérature de la Shoah et qu'André Chouraki serait sans doute resté complètement déjudaïsé, avec ce regard sceptique et ironique sur la civilisation juive, parce qu'au lycée d'Oran, qui était un lycée non-juif, bien sûr, un lycée de la France, on enseignait à la fois aux petits juifs et aux petits musulmans que la religion, c'était ridicule, c'était du passé, c'était des superstitions. Et en grandissant, je crois que c'est l'opinion qu'avait André Chouraki de sa religion. Et s'il n'avait pas, à cause de sa poliomyélite, eu un problème à la jambe qui l'a emmené à l'âge de 17 ans, juste entre le bac et la faculté en France pour une opération. Et cette opération s'est déroulée dans une clinique tenue par des prêtres, protestants d'ailleurs, et on lui a fait redécouvrir la Bible. Parce qu'en fait, on cherchait à le convertir au protestantisme, et il s'est mis à lire la Bible. Et là encore, je pense qu'il serait peut-être parti dans une direction inconnue, et c'est la propagande antisémite d'Hitler. Je crois qu'il l'a écrit plusieurs fois dès 1933. C'est un précurseur, André Chouraki, parce que beaucoup de gens se sont réveillés avec le statut des Juifs en 1940. Lui, c'est véritablement, dès le moment où on a commencé à dire que les Juifs appartiennent à une race inférieure, il s'est réveillé et il a un réflexe extraordinaire. Il dit « Hitler me poursuit, me persécute et finalement veut ma mort en tant que juif, et moi je ne sais pas ce que c'est qu'être juif ». Et il convainc son père d'intervenir auprès du grand rabbin Liber, qui est le directeur de l'école rabbinique, pour qu'il puisse s'inscrire sans vouloir devenir rabbin, mais pour apprendre aux meilleures sources ce qu'est être juif. Et le grand rabbin Liber comprend, surtout en cette époque et accepte qu'il devienne étudiant à plein temps de l'école rabbinique et en même temps il fait des études de droit. Alors rien que ce parcours, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.
Oui, effectivement, c'est un parcours étonnant puisqu'à la fin de ses études, il rentre exercer donc la profession de juge de paix en Algérie. Et puis alors que le décret Crémieux, donc celui qui avait fait des juifs algériens des citoyens français à part entière, a été abrogé et qu'a été promulgué par Pétain le statut des juifs, il décide, ce qui peut paraître incompréhensible, de retourner à Paris en 41 pour poursuivre donc ses études rabbiniques. Finalement, il est contraint de quitter Paris et là, il va entrer en résistance, en Haute-Loire.
Mais il quitte Paris avec l'école rabbinique. Il va suivre les cours de l'école rabbinique répliée à Clermont-Ferrand. C'est incroyable.
Et donc, effectivement, il va entrer en résistance. Alors ça, c'est un aspect de la vie d'André Chouraqui qu'on connaît moins, donc à Chaumargey, en Haute-Loire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect de lui qu'on connaît beaucoup moins?
Effectivement, lorsqu'il est à Chaumargey, il sauve des enfants, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, il fait ce qu'aujourd'hui on appelle de la résistance spirituelle, parce qu'on parle beaucoup, depuis les années 2000 et un peu avant, du côté résistance, lutte pour la vie, lutte pour la valeur du judaïsme, quelque chose dont on ne parlait pas autrefois quand on parlait de la Shoah. Et la journée, effectivement, Chouraqui et son épouse Colette Boyer sauvent des enfants, mais c'est surtout André, bien sûr. Et la nuit ou le soir, il se penche sur sa table de travail sur une traduction qu'il avait déjà entamée à Oran. Oran en 1940, hein, c'était déjà pendant la guerre. Et c'était la traduction de Bahaya ibn Pekouda, qu'il traduit de l'arabe, mais Bahaya a été traduit par Ibn Tibbon en hébreu au Moyen-Âge. Donc il se sert des deux versions, l'original arabe, la version hébraïque. Et il a la chance d'avoir à côté de lui Georges Vaïda, à qui il a trouvé une maison à Chaumarchais. Georges Vaïda, célèbre orientaliste, était son professeur à l'école rabbinique. Et Georges Vaïda lui a servi de dictionnaire vivant. Et il faut dire qu'avec Georges Vaïda et aussi Jacob Gordin, Jacob et Rachel Gordin sont réfugiés aussi au Chambon-sur-Lignon. Chaumargey, c'est à côté du Chambon-sur-Lignon.
Oui, il avait reconstitué un véritable petit groupe de réflexion spirituelle pendant toutes ces périodes de résistance autour de lui.
C'est ça qui est extraordinaire. Ils ont appelé cela l'école des prophètes. Et je me suis rendu compte ces derniers temps qu'il y a un peu plus de gens qu'on ne pense qui ont profité de cette école des prophètes. Donc Georges Vaïda, bien sûr, était l'un des animateurs avec Jacob Gordin, André Chouraqui, Georges Lévite, qu'on connaît aussi sur son pseudonyme de David Jassine, qui a été traducteur. Et tous ces gens, pendant la guerre, sous la menace existentielle quotidienne, étudient le judaïsme, se donnent les uns les autres des conférences. Et donc André Chouraqui traduit un moraliste du Moyen-Âge pour donner une valeur spirituelle à son existence de juif pourchassé.
Alors, après la guerre, dans le film, vous évoquez brièvement un épisode de sa vie qui est assez important, à mon avis. Vous parlez d'une espèce de crise de folie qu'il aurait eue au sortir de la guerre.
Il était interné dans un hôpital psychiatrique
près de Paris,
à Suresnes. Dans son livre « L'amour fort comme la mort », qui est une autobiographie, il décrit que dans la cellule à côté de lui, il y avait Herriot, qui était le président du Sénat, qui était aussi là, en train de parler à la Vierge du matin au soir pour lui demander pardon. Et il parle à ce moment-là que pendant cette période, il rencontre les prophètes de la Bible dans sa folie. Il rencontre les prophètes. Et puis ce qui est hallucinant, c'est qu'il réussit après à en faire son métier. En sortant de cet hôpital psychiatrique, je crois que c'était...
En sortant pratiquement guéri. Moi, je l'ai connu, il n'avait absolument aucun symptôme. Jamais plus dans sa vie, il n'a donné signe de perte de santé mentale.
Ouais.
C'est incroyable.
Et justement, si on continue dans cette idée du bouleversement, c'était effectivement un jeune homme qui, au départ, devait rester en Algérie, devenir juge de paix. Donc, il n'était pas du tout destiné à tout ce qu'il a construit par la suite. Donc, on a évoqué effectivement cet aspect de la résistance et puis déjà cet intérêt pour les écritures. Mais il y a un autre aspect qui a été très important dans sa vie au sortir de la guerre. Donc, c'est l'Alliance israélite universelle à laquelle il adhère. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il rentre dans cette association, dans ce groupe, pour lutter donc contre les persécutions, diffuser la culture juive et l'humanisme français, en créant des réseaux d'écoles juives et francophones à travers le monde?
Après la guerre, il va être juge de paix à Boussada, c'est une oasis en Algérie, dans le Sahara. Et puis là-bas, il y a un soufi qu'il croise et qui va lui raconter son avenir, qui va écrire, qui va voyager, qui va...
Ce soufi lui annonce qu'il va rencontrer un juif à barbe et à épée qui va changer sa vie.
Voilà. Et mon père lui demande, il lui dit, est-ce qu'il est juif ? Il dit oui. Et il dit, je connais beaucoup de juifs avec une barbe, mais pas de juifs avec d'épée. Et à ce moment-là, il y a l'Alliance israélite universelle qui lui fixe un rendez-vous avec le président qui était René Cassin. Il le rencontre et 2 semaines plus tard, l'invite à la remise d'épée d'académicien. Et c'est comme ça que mon père a trouvé son mentor, avec sa barbe et son épée, comme l'a prédit le soufi. Et René Cassin lui propose de bosser avec lui, d'être secrétaire général d'abord de l'Alliance, qui était un rôle administratif qui n'était pas fait pour mon père. Et par la suite, il le nomme délégué de l'Alliance israélite universelle dans le monde. Il commence à voyager. Et le but à l'époque, c'était d'essayer de comprendre la communauté juive après la Shoah.
C'est comme et aussi ça créer des comités, effectivement, mais ces comités avaient pour objectif de créer des écoles. Et André Chouraki, en allant sur place dans chacun des pays, donnait des conférences et rencontrait les Juifs. Et il a été d'une telle efficacité qu'en fait, il est resté pratiquement jusqu'à son aliyah.
30 ans.
À l'Alliance israélite. Et René Cassin a très très bien compris que c'était aussi un homme d'écriture, donc il lui a ménagé un statut tout à fait particulier qui permettait à André Chouraki, 6 mois par an, d'être pleinement actif dans ses déplacements et tout de même de consacrer 6 mois par an à son œuvre d'écrivain. Parce que déjà, tout de suite après la guerre, André Chouraki s'est mis à traduire d'abord les psaumes et le cantique des cantiques, puis là c'était aussi l'Alliance qui lui avait demandé à créer et diriger aux presses universitaires de France une collection juive. C'était pas la première, il y en avait eu un peu avant la guerre, mais c'était la première importante, collection Sinaï, dans laquelle André Chouraki a fait publier Maïmonide, Yecheskel Kaufman sur la Bible, Salo Baron sur l'histoire juive et bien d'autres auteurs encore. Et en fait, il a joué un rôle essentiel sur le plan de la culture. Et ça, René Cassin a compris qu'il fallait lui laisser la bride lâche pour qu'il puisse en même temps créer et avoir des idées.
Oui, parce que c'était à la fois un homme de terrain, ça on le voit très bien, mais aussi un homme de réflexion, d'écriture. Et il va d'ailleurs continuer comme ça à modifier sa vie par phases successives. Et il va effectivement en 1958, vous l'avez dit, s'installer en Israël, où assez vite il deviendra un des conseillers de David Ben-Gourion. Comment se sont-ils rencontrés? Comment est-ce qu'il a pu effectivement mettre en place ce nouvel aspect de sa vie, un aspect plus politique?
René Cassin, en tant que président de l'Alliance israélite universelle, était en contact étroit avec l'administration israélienne à l'époque, Ben-Gourion notamment, Shimon Peres, et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mais plus particulièrement, je crois que mon père a écrit un article sur un événement qui s'est produit en Israël où il y avait du racisme anti-séfarade. C'était Wadi, comment ça s'appelle ?
Salib.
L'affaire Wadi Salib. Il a écrit un article dans Le Monde sur cette affaire que Ben-Gourion a lue, et ils se sont rencontrés, et Ben-Gourion lui a dit, si tu veux t'en occuper, tu as carte blanche.
S'occuper de la discrimination, de régler le problème de la discrimination.
Oui, voilà. De l'intégration, des problèmes d'intégration en Israël.
Ça a été un élément essentiel de l'œuvre qu'il a mis en place en Israël, auprès de Ben-Gourion, puis après à la mairie de Jérusalem, effectivement d'œuvrer pour la meilleure intégration des Juifs séfarades en Israël. Vous nous parlez peut-être, Francine Kaufmann, de cette problématique-là?
Écoutez, c'est très très important de se rendre compte qu'André Chouraki a été l'un des premiers intellectuels séfarades, titulaire d'un doctorat d'État de la Sorbonne, du Panthéon, c'était un doctorat de droit, qui était considéré donc comme occidentalisé sur le plan de la pensée, mais qui avait toutes les connaissances du juif séfarade et qui était déjà arrivé à des postes de responsabilité, ce qui fait qu'en Israël, à une époque où on considérait les juifs séfarades comme incapables d'accéder, et il faut le dire malheureusement parce que c'est vrai, incapables d'accéder à la réflexion intellectuelle, on les considérait un peu comme des retardés. Je m'en suis rendu compte moi-même, moi je suis ashkénaze et je me suis battue aussi contre ses préjugés très tôt. Mais je crois que André Chouraqui, justement, a joué un rôle essentiel parce que Ben Gourion a pris conscience de la profondeur de la crise qui était à la fois une crise sociale et une crise éthique, en fait, de la société. Et donc, il a permis à André Chouraqui, qui avait cette stature et auquel beaucoup proposaient une fonction politique, justement, parce qu'il aurait été le séfarade de service, ce qu'il refusait. Il ne voulait pas être choisi parce que séfarade, mais il voulait lutter pour qu'on cesse de considérer la pensée séfarade comme inférieure. D'ailleurs, il a été le premier à écrire une histoire des Juifs d'Afrique du Nord qui, si vous la reprenez aujourd'hui, est vraiment d'un niveau exceptionnel pour l'époque, parce qu'il n'y avait rien. C'est un des tout premiers à avoir montré la richesse intellectuelle, culturelle de ce judaïsme, et il a incité d'autres ensuite à faire des recherches. Il ne faut pas dire qu'il était le seul, mais il a joué un rôle absolument essentiel.
Comme dit Cyril Aslanov dans le film, c'est une révolution copernicienne. Dans le sens
en matière de réflexion sur l'apport du judaïsme sfarade. N'oubliez pas, quand on enseignait la littérature juive dans la diaspora et jusqu'à Israël, on ne parlait que de la Haskalah, de la littérature en Russie, en Pologne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne. En Espagne, c'était sfarade, mais ça avait un autre aspect. Depuis l'Espagne, on ne savait pratiquement pas ce qui s'était passé au point de vue culturel. Et vraiment, Chouraqui est l'un des tout premiers à l'avoir fait. Ensuite, il y a eu Chaim Zafrani ou d'autres encore qui ont fait des recherches. Et aujourd'hui, c'est toute une branche de la science. Mais c'est un précurseur.
Ce qu'il faut dire aussi, qu'on a oublié de dire dans le film, enfin, on n'a pas oublié, mais on n'a pas le temps de tout dire, c'est que tout de suite après la guerre, il se crée des comités de l'amitié judéo-chrétienne avec Edmond Flegg, avec des gens comme Jules Isaac, comme des pasteurs, des curés. Il commence un dialogue. C'est-à-dire c'est la première fois, plus ou moins, en dehors de la période de l'Espagne, l'âge d'or ou, qui s'est terminé en bain de sang, c'est la première fois où les gens sortent de leur ghetto et arrivent à communiquer.
Et je me suis rendu compte que Jules Isaac, qui a commencé donc ses recherches sur Jésus et Israël dès 1942, avant même la déportation de sa femme et de sa fille et de son gendre, il était réfugié lui aussi au Chambon-sur-Lignon et on lui a conseillé d'aller rencontrer André Chouraqui qui, à cause de
sa... Non, c'est mon père qui est allé lui donner des faux papiers, c'est comme ça qu'ils sont rencontrés.
Pardon. Emmanuel, tu sais plus que moi quand même.
Alors effectivement, vous l'avez évoqué, il va militer pour la cohabitation des chrétiens et des juifs, mais aussi des musulmans, ensemble, en Israël et ailleurs dans le monde. Donc il va fonder des comités de coopération interreligieuse. Il va créer en 58 un comité pour l'entente religieuse en Israël et dans le monde, qui réunit les trois fois monothéistes. Est-ce que vous pensez que c'est le souvenir de sa vie en Algérie qui lui donne une bonne vision de ces questions de cohabitation des confessions ?
Certainement, parce qu'en Algérie, enfant, il a vu coexister, ne serait-ce qu'au lycée d'Oran, mais même à Tmouchent, les trois religions. Il savait qu'il y avait beaucoup de préjugés, mais que la coexistence était possible. Maintenant, à partir du moment où André Chouraqui s'est lancé dans la traduction des Écritures, au départ, c'est le titre du film, au départ, c'était la traduction de la Bible hébraïque. Mais très vite, il s'est dit qu'il allait traduire l'ensemble de la Bible en général. Il connaissait très très bien la tradition chrétienne. Et également, il a décidé d'y greffer la traduction du Coran. Or, en traduisant ces textes, il a essayé d'abord pour lui-même de comprendre les racines communes de cette pensée qui est née dans les mêmes paysages. Parce que ce soit les évangiles nés aussi à Jérusalem ou autour de Jérusalem, dans les communautés nouvellement chrétiennes, c'est là que les pères de l'Église et d'abord les apôtres ont parlé, ou que ce soit le Coran, ce sont les paysages de la région d'Israël et du Moyen-Orient qui ont nourri ces hommes, mais aussi le même message. Ce message, il a essayé de le ressentir à travers les textes et de le faire passer en traduisant les racines communes qu'on peut reconstituer quand il s'agit des évangiles écrits en grec, parce qu'on peut sentir l'araméen ou l'hébreu parlé par les auteurs, mais on peut aussi, dans l'arabe du Coran, ressentir les racines sémitiques communes, ce qu'on appelle le proto-sémitique. Et finalement, André Chouraqui a ressenti l'unité profonde du message aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous des êtres humains et vous pouvez arriver à créer un monde meilleur. Ce message, je crois qu'il est d'abord passé par les Écritures. C'est-à-dire, enfant, c'était une expérience. Ensuite, il s'est rendu compte qu'on pouvait arriver par la parole de Dieu à unir les croyants, et c'est devenu un message pratiquement messianique.
Alors pour finir, parce qu'il nous reste peu de temps, je pense qu'il faudrait, pour conclure, aborder justement la question de cette traduction, qui a été quelque chose de très important, qui a beaucoup marqué l'époque, les esprits, qui n'a pas d'ailleurs forcément toujours été très bien accueillie. Donc une traduction où il essayait de se rapprocher des étymologies originelles, des mots, de décoloniser le texte, on a pu dire ça aussi de temps en temps, et de doter ce qui ôtait au texte ses origines orientales.
Vous venez de dire que la traduction n'a pas été très bien reçue. C'est, je crois, plus dans le milieu juif. Parce que dans le milieu juif, on a bien senti qu'André Chouraki avait une vision qui n'avait rien de rabbinique et qui dépassait, en fait, la stricte orthodoxie pour essayer d'aller vers un message universel. Mais dans le monde chrétien, cette traduction a eu un impact exceptionnelle. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme une des traductions de référence. Et d'ailleurs, elle est même traduite en portugais, c'est-à-dire à partir du français, pour faire sentir des nuances qui ne passent pas dans les traductions habituelles. Alors, ce qu'a fait André Chouraki, c'est essayer d'enlever tous les termes qui étaient devenus une sorte de ronron un petit peu abstrait et bondieusard et souvent d'ailleurs peu compréhensible parce qu'on avait des mots dont on ne savait pas très bien ce qu'ils voulaient dire. Et lui, il a rendu au vocabulaire de la Bible, des évangiles et du Coran le côté très concret de ces civilisations qui emploient des expressions empruntées à la vie courante qui, en plus, en hébreu, on tutoie Dieu, il n'y a pas de vouvoiement, mais tout de même, on tutoie Dieu, on le sent bien dans la manière dont on s'adresse à lui, et on est très direct, et dans les relations entre êtres humains, on peut être à la fois très, très, très chaleureux et aussi très agressif. Tous ces côtés qui avaient été un petit peu éludés dans les traductions traditionnelles, et quand on parlait de Dieu, tout devenait très spirituel, Chouraki a restitué le côté concret, personnalisé du langage biblique. Et je crois que c'est ça qui a frappé. Ça a permis de comprendre ce qui s'était vraiment dit en hébreu. C'était pour lui essentiel, faire savoir comment le texte parlait. Après, on peut prendre d'autres traductions si on a envie de comparer et de comprendre à d'autres niveaux. Mais si on veut savoir comment parle l'hébreu, entre autres, on prend la traduction de Chouraki.
Et vous vouliez, peut-être pour conclure...
Je vais essayer de résumer d'une façon simple pour que n'importe qui puisse comprendre. Qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le message mosaïque, Moïse, les 10 commandements, a enflammé la planète. Tous les conflits d'aujourd'hui se situent autour de cette question entre juifs, musulmans, chrétiens. Et c'est un train qui est en marche, qui donne un précepte aux humains comment vaincre la mort, en gros. Triatam etim, la finalité de tout ça, c'est
la résurrection,
c'est la résurrection des morts. Donc ce train-là, il avance jusqu'au 70 après Jésus, où il y a la destruction du temple. Les juifs sont éparpillés dans le monde entier en préservant ce message. Et la chrétienté le répartit à travers la planète. Ça fait que l'humanité entière apprend ce message. Par contre, ils l'ont appris, mais ils l'ont pas compris, parce que ça a été mal traduit. Et mon père arrive après la Shoah, il comprend tout ça très très vite, et je crois que dans 500 ans, quand on parlera de lui, on trouvera quelqu'un qui a remis le train sur les rails. Parce qu'on a mis 2000 ans à ne pas se comprendre, et puis pour arriver à accomplir ce message de base, il vient faire cette correction, ce tikkun.
Merci encore tous les deux. Emmanuel Chouraki, Francine Kaufmann, je rappelle que votre documentaire sera diffusé sur KTO entre le 6 et le 13 décembre. On peut avoir les dates exactes en consultant le site de Mémoire Vive. C'était donc Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.